Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Je sais pas trop comment formuler ma question, mais j'ai l'impression que justement, tu vois, ça a été vraiment... Je te le disais, moi, ce que j'admire beaucoup chez toi, c'est ta façon un peu de rebondir, de créer des, enfin, de reprendre un nouveau sport et de l'apprendre. Mais un truc aussi hyper inspirant, c'est que t'as appris de ces différents univers, en fait, justement, où tu me parlais effectivement, bah, tu t'es entraîné pas mal avec l'équipe de France de voile, donc t'as vu le milieu un peu fédéral, tu vois, de ce côté-là, où on pourrait se dire d'ailleurs que c'est le plus, que c'est les plus compétiteurs, mais on peut se tromper. T'as fait des sports plus confidentiels et tout, et en fait, j'ai l'impression que tout ça, c'est vachement enrichissant, tu vois, de baigner un peu dans ces différents milieux et que c'est que ça te fait vachement grandir, tu vois. Et donc c'est vachement inspirant, tu vois, je trouve, pour les gens qui apprennent par l'expérience, par les rencontres, d'aller tester plein de nouveaux trucs et d'aller baigner dans d'autres écosystèmes, quoi.
Ouais. Bah, la voile, ouais, du coup, le windsurf à foil étant devenu olympique pour Paris 2024 et les Jeux étant à Marseille, c'est vrai que ça m'a tenté, tu vois, d'essayer, voilà, de m'investir là-dedans et je me suis entraînée donc sur le support qui s'appelle IQ Foil pendant un an, l'année dernière. Et j'ai découvert plein de choses. C'était trop bien. Après, je l'ai fait, je pense, juste pour confirmer que je suis pas une athlète olympique. Que je suis libre et je resterai libre. Après, voilà, il y a plusieurs choses.
Qu'est-ce qui a joué dans ta décision ?
Ouais. Il y a plusieurs choses. C'est que c'est un sport où l'investissement financier est assez conséquent, où les ressources financières viennent du gouvernement principalement. Tu peux, mais ça n'intéresse pas trop les marques extérieures, disons. En fait, les marques internes au sport, elles sont totalement absentes parce qu'on est sur un support qui est le même pour tout le monde, donc c'est la même marque. Après, là, ça se diversifie un peu. Il y a d'autres marques qui peuvent produire ce support là mais ça reste, tu vois, un petit peu autre chose. Même si c'est de plus en plus proche, parce que le foil, il y a plus de sensations, c'est stylé, c'est beau à voir, ça va vite. Tu peux faire un parallèle, mais en fait, si tu veux, je finançais ma, comment il dit ça, PO, préparation olympique, avec mes salaires du wing foil et du sup. Okay. Donc mes salaires qui venaient d'à côté des sports, freeride, on va dire. Et en olympisme, du coup, si j'avais voulu continuer, ceux qui veulent continuer doivent travailler avec la fédération, ou alors ça coûte beaucoup d'argent, ou alors tu prends un coach privé externe, et tu fais ça en parallèle, mais l'investissement financier est quand même assez gros, de l'ordre, je pense, de 70 000 par an, facile.
Ouais. Voilà. Ouais, parce que tu quittes le circuit fédéral, c'est ça qui coûte de l'argent ? Ou c'est les déplacements ?
Déjà, quand tu es dans le circuit fédéral, à moins que tu sois vraiment bien titré, ça concerne peut-être 4 ou 5 personnes, tu vois.
Ouais.
Là, tu as tout qui est pris en charge, etc. Et le matos coûte très cher, donc il faut à chaque fois que tu rachètes du matériel. Ça fait partie du truc, hein. C'est comme quand c'est quand tu fais des sports technologiques, disons.
Bien sûr.
Tu fais de la moto, tu fais du circuit, du windsurf, tu fais du bateau, ça coûte cher, c'est fait partie du game.
Bien sûr.
Voilà, ouais. Parce que tu as fait ce choix de faire un sport avec du matos.
Ouais, mais même sur les sports sans matos, dès qu'il y a de la performance, ça coûte beaucoup plus cher, tu vois
ouais, carrément.
Tu vois le mec qui court, on pourrait dire ouais, la course à pied ça coûte rien, enfin les recherches et développement qu'elle est pour les paires de chaussures des gagnants du marathon des Jeux de Tokyo.
Ouais, c'est sûr.
Tu vois, c'est des dizaines d'ingénieurs qui bossent sur une chaussure, tu vois.
Ouais,
donc,
ouais. Ouais,
donc,
voilà.
Ils en vendent beaucoup pour compenser, mais.
Ouais, c'est sûr. Et du coup, après, en tant qu'athlète, c'est vrai que en course à pied, tu vas acheter ta tenue, tes chaussures, tu vas t'inscrire, et ça va te coûter peut-être 500 euros, j'en sais rien, tu vois.
Ouais,
là, c'est plutôt. Par compète, tu dois investir, tu dois racheter une voile parce que la voile elle se détend.
Tu rachètes une voile
à chaque compète, ouais. Chaque compète, donc la voile elle coûte 1000 euros. L'inscription elle coûte 250 euros. Tu te déplaces, etc. Ouais. Donc,
et tu peux plus l'utiliser la voile après.
Ouais, tu peux l'utiliser pour t'entraîner, mais c'est vrai que c'est quand même des matériaux hyper flexibles qui sont adaptés pour le foil. Et moi je pensais que j'allais acheter mon matos et que j'allais l'utiliser longtemps, tu vois, comme un vélo, tu vois, tu achètes un cadre de carbone et ça dure c'est sûr que c'est un petit inconvénient quand même d'avoir cette fragilité de matos là et de devoir du coup toujours réinvestir à chaque event. Donc quand tu dépenses 2000 euros par compète et que tu gagnes pas d'argent, ça fait un petit peu mal. mais du coup, voilà, moi, c'était vraiment quelque chose que je voulais tenter parce que dans la vie, tu sais pas ce qui peut arriver. J'aurais pu rencontrer un entraîneur qui croit en moi et qui m'amène jusqu'au jeu. Et un entraîneur qui soit sur ma vibe, tu vois, et qui capte mon potentiel et qui... Mais voilà, du coup, ça l'a pas fait. Enfin, je suis là maintenant, j'en fais plus. Mais ça m'a énormément appris et ça m'a fait rencontrer des personnes incroyables. Et ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur leur fonctionnement, leur approche du haut niveau.
Ouais.
Et ça, c'est important, en fait, de t'ouvrir à d'autres choses. De vraiment t'imprégner de différentes facettes de comment repousser les limites. Et...
Ouais.
C'est vrai que c'est des profils de sportifs qui n'ont rien à voir, quoi.
Ouais. Ouais, finalement, c'est hyper, hyper enrichissant, quoi.
Parce que bah, dans ce sport-là, tout tient qu'au détail, au micro-détail, tu vois. Que ce soit sur ton matos, que ce soit sur l'eau, sur la lecture, que ce soit sur la tout ce qui est technique et tout. Et ça, ouais, j'ai trop kiffé aussi.
Bon, bah, trop cool, trop cool. C'est en plus, ça fait casser. Enfin, ça. Tu t'es dit aussi, ouais, en fait, c'est possible, moi aussi, je peux le faire.
Ah bah oui, moi je me suis dit je vais aller faire les Jeux Olympiques, hein. Je m'en fous. Non, mais si tu veux, tu vois, si tu pars pas dans cet état d'esprit là, tu peux pas. Je pense que tout athlète a ce rêve, enfin a ce rêve là, a cet objectif là, ouais. Même si t'es bidon, tu vois, parce qu'au début évidemment t'es bidon. Moi j'avais pas navigué depuis 10 ans, donc mais par contre la progression que j'ai eue, il y en a, ils m'ont dit c'est cool, c'est vraiment bien ce que tu fais.
Ouais.
J'avais jamais fait de régate de ma vie. De voile, c'est en fait le format régate, il est hyper basé sur la lecture du vent,
ouais.
Tes choix stratégiques, etc. Ça fait, on va dire, 80% de ta course. Si tu sais pas lire le vent, c'est mort. Donc moi, je savais rien, parce que j'avais fait que du slalom en mode vitesse, vent, tu vois, je m'en foutais, c'était pour rentrer dans la voile et pousser, quoi, tu vois. Ouais. Et voilà, je me suis entraînée et tout. J'ai fait quand même une 20e place sur une compète internationale où il y avait du level et on était 70 sur la ligne de départ à partir en même temps, tu vois. Donc en planche, c'est un peu impressionnant quand même quand tu te lances sur les départs de vol. T'as dû commencer. C'est genre t'as une ligne sur l'eau imaginaire, t'as le décompte sur la montre et tu te lances taquet et à zéro. quand le décompte est fini, tu passes et là t'es 70 à arriver comme ça. Pff, c'est incroyable.
Ouais.
C'est incroyable, c'est trop bien.
Et c'est que l'enjeu financier et liberté qui t'ont donné envie de rester.
Et ouais, parce que c'était pas moi en fait. C'est pas moi de faire ça.
Ouais.
C'est je pense que comme disait un grand navigateur, c'est un peu trop poussé à la performance. Non, je rigole. non mais c'est. Tu deviens presque une machine. Je pense qu'à un moment donné, c'est dur parce que si t'es un peu pris par le côté fédéral, toujours t'es un peu pris pour un pion. Et si tu perfs pas, bah tu dégages. Et c'est tout en fait. T'as pas le droit d'avoir de coups de mou.
Ouais.
Tu vois, si t'as, bah, j'ai un super ami à moi, Thomas Goyard, qui a fait les Jeux donc en windsurf de Tokyo, qui est un rider dans l'âme, qui a tout pété à Tokyo, il fait deuxième, donc c'est une perf de ouf.
Ouais.
Et il a failli se faire désélectionner juste avant les Jeux parce que son profil ne convenait pas au directeur des équipes de France.
Ouais.
Alors que c'est complètement interdit. Il a voulu faire un abus de pouvoir de dingue. Et quand tu vois ça, t'as pas envie de travailler avec ces gens. T'as juste envie de leur dire, mais tu sais quoi, reste dans tes bureaux et moi je vais rider. Moi mon kiff en fait, c'est de voilà, parfois en fait une perf, tu la mets quand il faut, tu vois.
Ouais.
Il y a des gens, ils sont super réguliers, c'est un peu en mode robot, tu vois. Mais parfois t'as le droit d'avoir des moments où t'es moins là. Et par contre, la capacité à être athlète de haut niveau, de mon point de vue, c'est d'être là quand vraiment c'est important. Et parfois, tu peux avoir des petites compètes régionales ou des trucs moins importants où t'as le droit d'être pas à fond, quoi.
Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire.
Ou de prendre plus soin de toi, tu vois, de prendre un peu de. Prendre un peu le large et de faire autre chose et.
Ouais.
Et d'ailleurs, ça, c'est un mec qui m'a formé. Moi, du coup, j'ai grandi à Digne-les-Bains.
Ouais.
Dans les Alpes de Haute-Provence. Et j'ai commencé par faire plusieurs sports et le triathlon.
Ouais.
Et j'ai rencontré un gars qui s'appelle Nicolas Lebrun,
okay.
qui a été champion du monde de Xterra, donc de triathlon nature, en 2008, si je dis pas de conneries. Et ce mec, mais c'est un extraterrien lui aussi. Ah ouais, lui, c'est n'importe. C'est genre, il a une capacité mentale complètement décalée de tout le reste du triathlon. C'est vachement, tu vois, cadré. C'est tu vis, enfin, tu vois, comme on disait tout à l'heure, c'est tu te lèves triathlon, tu penses qu'au matos, etc. Lui, ça va tout être dans les tripes et le cœur, quoi. C'est genre, il peut s'entraîner avec des gars et être moyen à l'entraînement, tu vois. Et par contre, quand c'est le moment de la compète, c'est genre, il pose le cerveau. Et il a fini la course, il avait l'épaule pétée d'ailleurs. Le championnat du monde qui gagne en quand c'était son heure de gloire.
Ouais.
Il tombe à pied, il se pète l'épaule et il finit avec l'épaule pétée les derniers kilomètres comme ça. Et c'est vraiment ce mec qui m'a transmis ça en me disant mais tu sais qui tu es maintenant, ça veut pas dire qui tu es demain. C'est-à-dire que si tu décides, comme on parlait de l'auto-hypnose, ouais. Parce que c'est un peu ça, tu vois, ça veut dire là, si maintenant t'as peur, t'es pas dans un bon mood ou quoi, ou t'es pas l'athlète, tu vois, l'image que t'aimerais, ça veut pas dire que demain tu vas pas être un monstre, si tu le décides.
Ouais, ouais, je vois très bien, je vois très bien. Et tout est une question de choix et d'intensité et d'intention, d'engagement dans ce que tu veux pour toi, quoi.
Mmh.
Et trop beau, je la noterai, je la mettrai en citation pour pour la promo, celles-là, elles sont trop chouettes. On a parlé de tellement de sujets là, de plein de trucs, là je suis en train de voyager. J'ai les petites questions un peu de la fin, tu vois, que j'aime bien pour mieux un peu comprendre les athlètes. Et une des questions que j'aime bien poser, c'est quoi une bonne journée pour toi? Si tu devais me résumer la journée parfaite.
Alors, une bonne journée, c'est au Portugal, chez moi. C'est me lever le matin, gros câlin de mes chiens, mes trois chiens qui sont égales à eux-mêmes, toujours, ouais. Et voilà, qui me sautent dessus quand je sors de chez moi. Aller nourrir mes poules, voir si mes arbres, ça va et tout le monde va bien.
Ouais.
Et aller au spot, avoir avec un pote ou deux, tu vois. Spot de foil où il n'y a pas grand monde parce qu'il y a beaucoup de courant. Chez moi, au Portugal, j'ai un spot de ouf.
Ok.
Et une grosse session, une belle session dans les vagues en subfoil. Et après, un petit lunch à notre petit spot, là, Elsie, trop bon. Ça, c'est la journée portugaise. Après, la journée en Méditerranée, tu vois. En Méditerranée, donc bah, y a pas mes chiens, il n'y a pas mes poules. Mais voilà, donc petit réveil tranquille, tu vois. Le Mistral qui est là depuis 2-3 jours, tu vois. Donc la mer, elle est bien formée, tu vois, elle est bien en place. Et bah, c'est demain d'ailleurs que ça va m'arriver, ça. Demain ça va être une journée de dingue.
Là, ça commence un peu. Hein,
Là, aujourd'hui, doucement. C'est un peu nuageux, donc le vent, il est plus tranquille. Mais, ouais. Là, il y a un mec qui navigue là-bas, t'as vu?
Ouais, on en voit, ouais. Et j'en ai vu plusieurs, ouais, tout à l'heure.
On va aller là-bas après. Et ouais, demain, les condis, elles sont vraiment cool. Ça souffle, en fait, de Marseille jusqu'à hier. Et je vais faire Marseille hier en stand-up paddle, en subfoil, downwind.
Ça, c'est une bonne journée.
Ça, c'est une bonne journée.
Bon bah trop cool, en tout cas moi je le relayerai et tout avec grand plaisir. Qu'est-ce que tu fais quand t'es pas sur l'eau? Tu vois, j'ai bien compris que c'était ton moment de prise d'énergie, tu vois, quand t'es sur l'eau, mm-hmm. Quand t'es en train de rider et que t'es un peu seul et tout. Mais tu fais quoi quand t'as besoin de t'évader et que t'es sur terre et que t'as pas une board et une bonne houle pour aller t'éclater?
Bah, quand j'ai besoin de m'évader, ce que j'adore, c'est marcher. Marcher avec mes chiens. J'adore encore plus marcher avec mes chiens parce que je les vois kiffer. Du coup, ça me fait kiffer de les voir kiffer. Au Portugal, je marche dans la dune, le long des falaises, des plages. C'est mystique là-bas. Tu t'imprègnes juste d'être là et d'admirer la beauté du lieu. Et après, ça c'est vraiment ma façon de me ressourcer autre que d'être sur l'eau.
Ouais. Ok. Besoin. Voilà. Trop bien, trop bien. Est-ce que t'as un livre ou un film que tu recommandes très souvent aux gens autour de toi parce qu'il t'a particulièrement inspiré?
Ouais, ça fait un moment que j'ai plus lu un bouquin que j'avais adoré, c'est Le Guerrier Pacifique de Dan Millman.
Je pense que c'est le livre le plus cité sur ce podcast.
Mais non.
Si, je te jure.
Ah, mais c'est
mais c'est marrant parce que il est peu connu, tu vois, par les auditeurs, il y en avait plein qui le connaissaient pas et donc parmi les athlètes de haut niveau, il y en a plein qui le recommandent.
Ah ouais,
ouais, ouais, donc
c'était
cool.
Mon coach JR qui me l'avait conseillé. Et au tout début, il m'avait dit lis ce livre et tout, tu verras, c'est vraiment hyper inspirant et tout. Et j'avais bien aimé.
OK. Bon bah trop bien. Trop trop bien.
Et L'homme qui voulait être heureux aussi. J'aime bien. Je connais, enfin j'ai carrément oublié l'auteur.
L'homme qui voulait être heureux.
L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Gounel, non ?
Je sais pas.
Ouais,
je
voilà.
sais pas.
De Gounel.
Je lis pas mal.
Le prénom, je suis pas sûr, mais ça fait un moment que je l'ai lu aussi.
Trop cool.
Et voilà.
Bon, bah, trop, trop chouette. Alors, désolé, je fais un flashback parce qu'il y a une question. Il y a un sujet que je voulais aborder avec toi. Parce que tu as mentionné plusieurs fois l'égalité homme-femme, tu vois, dans le sport. Et j'ai complètement
Oula.
Oublié. Et c'était un des gros.
Je me disais, il va pas en parler.
Oh. Mais non, j'ai eu ce truc de merde, j'ai complètement oublié d'en parler. Et en fait, c'est en entendant, je sais pas, Guerrier Pacifique, ça m'a refait une connexion.
Ah ouais.
T'as mentionné, ouais, plusieurs fois que ça avait été soit plus compliqué ou, enfin, que t'avais été dans des endroits où, enfin, dans le paddle et tout, que c'était beaucoup plus mixte. Après, t'as effectivement évoqué que c'était beaucoup plus dur d'être une athlète dans un sport de ride, d'être une athlète féminine, tu vois. Par où on commence pour parler de ce sujet? je te pose la question.
Ouais, on peut commencer par le transfert, du coup, des compètes en paddle, de race. Où nous, les prize money étaient égaux depuis 2015, grâce à ces deux fameux riders, Bellard et Fred, qui eux, en tant qu'organisateurs et athlètes, pour eux, c'était complètement impossible de moins récompenser leurs amis, parce qu'on est une famille, tu vois. Il n'y avait vraiment pas de séparation entre l'organisateur et nous.
Ouais.
Et aussi, la deuxième chose, c'est parce que je pense que c'est des gens qui ont vécu des choses, qui se sont entraînés, pour Fred, qui a vécu un moment terrible dans sa vie avec un énorme accident dont il s'est remis d'une façon incroyable. Et donc ça, quand tu vis des choses, t'as plus d'empathie pour l'autre.
Ouais.
Et pour amener l'égalité des genres, il faut avoir ça. Il faut vivre le sport, il faut le comprendre. Il faut savoir ce que c'est d'être un athlète. Et ensuite, si tu as vécu des choses un peu dures, tu as de l'empathie et du coup, ça aide. Tu vois, pour savoir ce que c'est que d'être une femme, d'aller partir au carton, là, tu vois, en mer, d'avoir moins accès au matériel parce que c'est des sports qui coûtent cher. Donc, l'investissement au début, il est assez conséquent. Et quand t'es une femme, ben, tu dépenses beaucoup d'argent avec beaucoup de choses, tu vois, les cheveux, les ongles, les crèmes, les fringues, le rasoir, le même rasoir qui coûte moins cher pour un homme et plus cher pour une femme, et tout ce qui va avec.
C'est
et du coup, bah, à la fin du mois,
beauté, hygiène,
à la fin du mois, voilà. Mais en plus, voilà, t'as quand même pas mal de pression comme ça de. Peut-être plus pour une femme, beaucoup plus pour une femme que pour un gars, tu vois, de prendre soin de soi, pour l'image, ou pour se sentir bien simplement, tu vois, pour tout ce qu'on nous inculque. Et du coup, à la fin du mois, t'as quand même moins d'argent pour cette raison-là. Et quand tu es dans le milieu du travail, la plupart du temps, t'es moins payé.
Ouais.
On va pas tous citer, et en plus, tu fais des enfants, et là, ton gars, il dit « Bon, je vais bosser, hein !» Allez, ciao. Non, mais moi je bosse, tu vois. Toi, t'es les enfants, toi.
Eh ben, écoute, t'écouteras. J'ai fait un super épisode avec Anaïs Chevalier-Boucher, qui a eu une petite fille entre deux Olympiades et qui a réussi à revenir médaillée. Et c'est son mec qui a tout géré, quoi.
Bah, Charline Picon aussi, hein.
Ouais, Charline Picon
et
aussi.
Camille et Camille Lecointre, ouais.
On en donc, a beaucoup parlé à chaque
fois. Il existe des femmes comme ça qui sont incroyables et surtout qui sont dans un état d'esprit nouveau. Et avec leur entourage aussi qui suit ça, hein. C'est pas qu'une seule personne, hein. Quand t'es en famille, c'est tout le monde, hein, qui a cette.
Bien sûr.
Ben voilà, qui a ce partage des tâches et cette liberté pour chacun. Et du coup, ben, quand tu comprends ça, ben c'est vrai que même le fait qu'il y ait moins de femmes sur nos sports, c'est juste complètement normal. Parce que. Les siècles et les siècles qui nous ont précédés ont fait que. Et que le changement, bah, il se fait par étapes, il se fait ensemble. Et il se fait aussi bah, grâce aux femmes qui se battent et grâce aux hommes qui s'investissent aussi pour prendre des rôles qu'ils n'avaient pas forcément avant.
Ouais.
Comme être père, voilà, être père présent. Et du coup, voilà, ça, le SUP, c'était trop bien parce que il y avait toujours des gars qui étaient un peu surpris ou qui comprenaient pas trop, mais la majorité des gens c'était comme ça et on se posait même pas la question, tu vois. Sûrement lié pareil à l'effort et à ce que tu donnes sur l'eau, où c'est beaucoup plus dur que faire des sports de voile où cela glisse et c'est voilà. Et en wing foil, du coup, ça a démarré l'année dernière, la première année du World Tour. Donc je me suis dit, trop bien, je vais faire un nouveau sport, ça va être trop stylé. J'adore, j'étais motivée de ouf. Ouais. Et j'étais trop contente, j'adorais rencontrer ces gens. Et c'était, c'est forcé en fait que t'es avec, que tu mélanges tout le monde, les gars et les filles, parce que tu t'inspires les uns les autres. Pour nous, les meufs, et pour plein de gars, c'est ultra inspirant de voir les meilleurs mecs, tu vois, faire des figures et faire des courses et tout. Enfin, c'est vraiment une chose importante. Parce que parfois, il est question, est-ce qu'on sépare les compètes hommes et femmes, tu vois? Ça, c'est une question qui peut être posée. Mais, et du coup, moi, j'ai le souvenir d'arriver à Tarifa au tout début du sport, genre. Mes sponsors, ils me disaient, mais non, mais tu vois, on s'en fout. Si tu vas à la Tarifa, vas-y. C'était pour le nouvel an. Donc, de toute façon, j'y allais pour faire le nouvel an ensuite, après la compète.
Ouais.
Okay. Pas pendant, quand même. et moi, j'y suis quand même allée, quoi. Parce que pour moi, faire une compète, c'est être avec d'autres gens et s'éclater, tu vois, et faire la course. Donc, c'était le tout début. Et ben voilà, on est arrivé. Il y avait 20 gars. On était 4 meufs. Et donc tu rencontres les organisateurs et tout. Moi j'ai capté qu'ils étaient un peu réfractaires dans le kite à l'égalité des genres. C'était quelque chose juste qu'ils connaissent pas, tu vois. Pour eux c'est de la science-fiction, quoi. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Donc on reproduit ce qu'on connaît.
Ouais.
En plus il y a beaucoup moins de femmes, donc c'est normal. Et surtout, tu te rends compte que il y a pas la fait que tout ce que tu crées, tu le penses avant. Tu vois, tu vas imaginer, par exemple, toi, ton podcast et tout, t'imagines ton futur, tu vois. Comment tu vas avancer, comment tu vas... nous, en tant qu'athlète, bah, t'imagines, tu vois, ton entraînement, ton cheminement, etc. Un organisateur d'event, s'il n'a pas cette vision d'égalité des genres au début, et s'il se dit, de toute façon, il n'y aura pas de femmes,
ouais.
Bah, il n'y en aura pas, tu vois. Parce que c'est vachement de vibe, tu vois, c'est vachement d'énergie où l'événement,
début, ouais.
C'est un terrain d'accueil.
Ouais.
Tu vois, c'est un terrain de rencontre et où si t'es pas prêt à accueillir les gens, ils viennent pas. Parce que les meufs, bah, elles ride, elles sont contentes de rider toutes seules, elles ont pas envie d'aller dépenser encore des sous, 80 balles d'inscription pour faire une petite compète et tout. Ou éventuellement, les primes seront bien inférieures pour les femmes.
Ouais.
Et du coup, bah, voilà, l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que sur le World Tour, on a été payé 80% de moins que les hommes.
Ok.
Parce que bah, pour la raison qu'on était moins nombreuses, que aussi médiatiquement, il y a eu pas mal de bah, de discussions autour de ça sur la question de quel est l'intérêt de médiatiser seulement les hommes et pas du tout les femmes. Tu vois. Et c'est vrai que ça. Alors tu sais pas si ça vient de l'ego. Si ça vient parce qu'on n'est pas assez forte, parce qu'on n'est pas assez visuel. Je prends un sport où les femmes sont hyper médiatisées, c'est le longboard, où c'est hyper fin, tu vois. Et d'ailleurs, il y avait un longboarder pro qui comprenait pas en fait que les femmes soient pas payées autant que les hommes, parce que quand tu vois sur Instagram la plupart des vidéos de longboard, c'est en fait le plus de vues sont générées par des femmes. Ouais, parce que c'est un sport qui est ultra gracieux, enfin tu vois le style du sport. Et du coup, il y a vraiment une question de pourquoi est-ce qu'on communique pas autour de l'image féminine. Et d'ailleurs, c'est dans tous les sports. Maxine Wezan, elle est comme ça en mode hey, les gars, c'est quoi le problème? C'est quoi votre problème? Et du coup, avec le donc il y a eu un comité des riders pour représenter tous les riders sur le World Tour, qui était ultra humaniste et en même temps féministe, tu vois, parce que quand on dit féministe, tout de suite c'est genre ah non, c'est pas bien, tu vois, c'est genre les fémines et tout. Non, quand t'es féministe et humaniste, c'est tu aimes les gens, ouais, et tu veux que tout le monde soit égaux, point, les hommes et les femmes et tout le monde. Et donc dans ce comité, il y avait des riders hommes et qui étaient hyper hyper forts sur le tour, qui ont dit bah nous on est d'accord pour voter l'égalité des primes, etc. Et surtout l'égalité médiatique. C'est ça, ouais, qui est le plus dur en fait. C'est...
Ouais, exactement. Ouais. C'est un truc que je voulais te dire, c'est qu'on se bat beaucoup pour l'égalité des primes, tu vois, parce que c'est une symbolique très forte. Mais si derrière, c'est pour dans les médias que t'es 90% d'hommes, et que sur tous les contenus qui soient créés, c'est que des mecs, quel est l'intérêt, tu vois? Donc c'est bien que t'en parles. C'est bien que t'en parles.
Et en fait, l'image, c'est ce qui fait tout. Et d'ailleurs, sur des compètes comme ça, privées, qui sont rémunérées, enfin, qui sont financées par les marques. En fait, un tour mondial, ça va être tout l'argent. Enfin, le plupart du budget vient des marques de l'industrie du sport. Ces marques-là qui sponsorisent davantage des gars, donc qui donnent la possibilité de courir plus à des gars. Ces gars-là qui se retrouvent sur les compètes. Et après, il y a la surprise de se dire ah ben il y a moins de femmes sur. Tu vois, tu donnes pas la même accessibilité. Et du coup, derrière, il y a moins de femmes sur les événements.
Ouais.
Et c'est de notre faute, tu vois. C'est de ta faute parce que t'as peur. L'organisateur du World Tour, il dit, mais les femmes, elles sont pas là parce qu'elles ont peur. Elles vont pas faire la compète. Tu dis, mais peur de quoi? Peur de faire du wing foil. Du wing foil. Ça, le petit sport avec le sachet de thé dans la main. En plus, un sport, le wing foil, qui est ultra accessible pour les enfants. Là, ceux qui gagnent, ils ont 15 ans.
Ouais,
c'est ça, donc c'est genre, c'est hallucinant. Celle qui gagne le 4, elle a 15 ans. Sur Tarifa, Ricky, il avait 15 ans. Tu vois, c'est top en fait de voir ça. Et du coup, en fait, voilà, ce qui s'est passé simplement, c'est que moi, j'ai dit plusieurs fois que c'était complètement anormal et que j'étais hyper surprise du déroulement des choses et que ça devait pas continuer, ça devait surtout pas continuer, parce que à l'initiation d'un sport, si tu pars du mauvais pied, ouais, c'est comme sur une course, si tu prends un mauvais départ, c'est foutu quoi, tu vois. Après, pour rattraper tout ton retard, c'est vraiment galère. Donc, on va dire, je suis un peu allée au carton. Parce que je m'en fous, tu vois, j'ai pas peur et ça me faisait rire en fait, par rapport à d'où je viens et l'environnement que je connais et tous ces gens qui m'ont porté, enfin toute la communauté du paddle qui est trop cool et l'histoire un peu clash de la finale du World Tour à Tarifa où il restait une compète et j'étais championne du monde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le directeur du World Tour me répond sur le groupe de Rider et me dit « Olivia, c'est inadmissible que tu parles comme ça au crew. Je vais demander à ce que tu sois virée du World Tour immédiatement et fais bien attention à ne plus jamais revenir sur aucun de nos événements. » Donc, intimidation totale.
Ouais.
Et si t'es pas contente, t'as qu'à aller sur des événements qui te font plaisir. Voilà. Donc moi en fait au final qu'est-ce que je faisais? Je voulais juste amener des valeurs de mon sport qui fonctionnent. Après c'est en fait tout est dans la forme et ce qui est le plus dur en fait c'est de parler à une voix pour un collectif et pas une personne face à une personne.
Bien sûr,
parce que du coup t'as l'ego tu vois qui entre en jeu etc. Donc on m'a visé directement moi alors que toutes les nanas pensaient pareil. ou plus ou moins, tu vois, si c'était pas l'égalité, c'était un peu plus que moins 80% ouais. de prize. Et du coup, voilà, ils ont fait une suite. Donc moi, je lui ai dit qu'il avait absolument pas le droit de me virer, que sauf faute grave comme du dopage ou vraiment des insultes. Ouais. Parce qu'au final, j'ai dit, the excuses are for the weak. Your act make your word useless.
Ouais.
Bon, voilà, c'est vrai que c'était direct, mais c'était pas des insultes en soi.
Non, mais après,
qui mérite d'être viré.
T'es tout excusé, quoi. C'est juste, tu vois, il y a des trucs qui doivent changer et qui doivent, tu vois, bouger. Et à un moment donné, en fait, si c'est hyper dur parce que quand tu mets la forme pendant des années et que tu t'essayes d'expliquer, les gens comprennent pas.
Mm-hmm.
Quand t'y vas, tu te dis ok, bah je change de ton pour vraiment comprendre que c'est énervant et que ça doit absolument changer. Les gens vont te dire ah mais tu mets plus la forme, dis donc.
Bah, il faut un peu savoir déranger, tu vois. C'est comme la fille qui s'accroche au filet de Roland Garros, quoi. Ouais. Faut dire hey, oh ouh. Salut, y a un petit souci là quand même. Ouais. Et bon, du coup voilà, je me suis pas accrochée à la tour des juges, mais de toute façon ça aurait servi à rien. Mais mais bon, ce qui s'est passé suite à ça, c'est qu'ils ont quand même fait une réunion au comité des sports du World Tour pour suite à la demande du directeur qui voulait me virer, de savoir s'ils allaient me virer ou pas à 3 jours de la compète. Et du coup, parce que là, le truc, c'est que si ils me viraient, ça aurait fait un truc médiatique de malade, tu vois. Personne n'aurait compris pourquoi j'étais virée pour un pauvre petit message sur WhatsApp de dire, ben bah là, maintenant stop en fait, tu vois, on arrête. Et donc, ce qu'ils m'ont proposé comme punition, c'est une amende de 250 €, mmh, pour avoir été agressive. De m'excuser sur le groupe WhatsApp, parce que oui, aussi suite à ça, ils m'ont viré du groupe WhatsApp, donc j'avais plus aucune info du déroulement du tour, et ils m'ont mis un blâme. Donc
sachant que t'avais sûrement des potes athlètes qui t'auraient dit un peu ce qui se passait quand même, quoi.
Oui, carrément, bah, tout le monde me disait, ouais. Et du coup, quand ils m'ont dit ça, ben moi, ça m'a trop fait. Encore une fois, ça m'a trop fait rire. J'ai dit, mais parce qu'en plus, juste avant de me dire ça, il me dit, en fait, tu vois, il y a pas d'image de femme parce que on n'a pas d'argent, hein, et faire l'édit de la vidéo des femmes, c'est voilà, ça coûte cher, etc. Moi, je lui dis, ok, d'accord. Ben écoute, je te donne 250 €. Comme ça, t'as de l'argent pour faire l'édit de la vidéo de promotion des nanas. Et par contre, ce qu'on fait, c'est que c'est quand même une amende conséquente, tu vois. Je vais le dire aux médias pour bien que plus personne ne répète ce que j'ai fait. Tu vois, que plus personne ne te parle mal comme je l'ai fait. Tu vois, que de savoir, en fait, que tout le monde sache que j'ai eu une amende pour ça.
Ouais.
Et là, il m'a dit, t'es sûr qu'il faut en parler aux médias? J'ai dit, mais non, mais je le fais pas pour ça, je le fais pour toi, en fait. Parce que si moi je le fais, il faut que personne continue, tu vois. Si tu me mets quand même une, c'est comme si tu te gares mal, c'est interdit, tu vois. Enfin, il faut faire savoir qu'il faut plus se garer là, quoi, tu vois. Et du coup, bah, ils m'ont retiré l'amende parce qu'ils se sont chiés dessus. Et que du coup, bah, ça s'est terminé comme ça. Moi, j'ai fait la compète, j'ai gagné. Et ça m'intéresse vraiment pas de côtoyer ces gens, du coup.
Ouais, je peux comprendre.
Ouais, ouais, ouais. Même s'ils font du travail marketing qui est top, ils sont super forts en ça. Donc, du coup, juste après cette année, ils ont mis les primes égales hommes-femmes. Et c'est cool, du coup.
Ouais.
Tu vois, on a foutu un peu le bordel. Je pense que quand tu veux un truc, il faut un peu remuer
bien sûr.
La bouteille d'Orangina, tu vois. Mais tu prends un risque parce que mes sponsors étaient pas trop chauds, tu vois, parce que pour ton image, tu vois, est-ce que tu peux interpréter les choses de différentes façons. Mais voilà, parfois il faut faire des petites actions comme ça et de toute façon, ça ne vient pas que de ça, ça vient de tout le travail qui a été fait en amont par le comité des riders. par le fait que c'était pas possible de continuer comme ça sur un sport aussi jeune qui naît là en 2021, ouais. Tu vois. Et quand tu vois que le surf est égalitaire, le snow, le tennis, hein, je me trompe pas.
Il me semble qu'il y a encore des écarts hein, sur les.
Ah.
C'est du x2, je crois. Hein.
Ah oui, quand même.
Ouais, ouais.
Ah ouais, non, pas cool.
Alors tu vois, plein de gens disent ouais, mais bon, si t'es une femme, tu gagnes Roland Garros. Je crois que je dis peut-être des conneries, ça a peut-être changé récemment, je suis pas. Pendant très longtemps, c'était le x2. Et beaucoup de. Enfin, des gros arguments, c'était de dire, mais en fait, les budgets sont déjà énormes et permet aux joueuses d'avoir des carrières. Donc c'est. Très mauvais argument.
Très mauvais argument, ouais.
On est non, d'accord.
Mais de toute façon, t'entends de tout, c'est.
Ah, mais il y a le VTT Enduro aussi, tu vois, l'histoire avec Isabeau Coudurier, j'ai fait un épisode avec elle où elle a bien expliqué, enfin, l'histoire, elle est magnifique, quoi. C'est trois mecs qui créent une ligue de VTT Enduro. Ils ont dit, dès le début, ça sera égalitaire, médiatiquement égalitaire.
C'est énorme.
Autant de nanas que d'hommes sur les compètes.
Voilà,
si,
c'est ça.
S'il y a que cinq nanas qui s'inscrivent, bah, il y aura que cinq hommes qui vont faire
exactement,
la compète.
Exactement.
Et en fait, aujourd'hui, les nanas dans l'enduro, c'est des stars, quoi.
Mais en fait, tu le crées, toi. Ouais. Si tu veux créer un monde où il y a que des hommes et trois femmes, et c'est ça qui est dur, en fait, quand tu organises un event. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de femmes, c'est ta faute.
Ouais.
Enfin, c'est une partie de ta faute, tu vois.
Bien sûr, ouais.
Parce que tu vas pas changer l'histoire de l'humanité, en deux jours, tu vois. Mais c'est vrai que moi, je suis hyper motivée d'organiser, moi, maintenant, des events, des courses, du coup, de downwind, de descente au vent, en wing foil. Et j'ai l'idée de me dire, je vais ouvrir à autant d'hommes que de femmes. Tu fais des quotas. Mais comme au JO, hein. Au jeu, il y a autant d'hommes que de femmes pour la première fois à Paris. Parce que on fait l'effort de supprimer certaines classes, de rendre d'autres classes plus mixtes, et pour qu'on vive dans le monde dans lequel on veut vivre.
Ouais. Mais écoute, merci beaucoup de ta transparence, tu vois, et de parler de ces anecdotes qui n'ont pas dû. C'est pas dû être facile, tu vois, même pour toi, de passer un peu pour. Je commence un petit peu à te connaître, du coup, et je sais que t'as des convictions et que tu voulais pas laisser passer ça et que t'acceptes et que tu t'en fous, t'acceptes de jouer
non,
ce
rôle.
Non,
en fait, sur le moment,
Qui crie, quoi, mais sur le moment, c'est pas facile.
Sur le moment, je me suis vraiment sentie persécutée parce que t'es dans un environnement tellement décalé et tellement, tellement différent, quoi.
Ouais.
Et en fait, parfois, tu vois, t'as en face de toi des personnes qui ont ces idées-là, c'est tellement fort que je me suis à un moment donné même senti, je me suis dit peut-être que c'est normal en fait.
Ouais.
Peut-être que c'est normal vu qu'on est moins nombreux, de toute façon on est nul par rapport à eux et voilà, en fait c'est normal qu'on soit moins payé. Je l'ai pas imprégné, tu vois, je l'ai pas gardé, mais pendant quelques instants, tu vois, je me suis dit en fait peut-être qu'ils ont raison. Tellement, tu vois, et en fait du coup je peux comprendre. Les petites vagues. Qui est des femmes, parce que ça vient aussi beaucoup des femmes, qui est des femmes qui pensent que c'est comme ça et que ça restera comme ça et que c'est très bien comme ça et que les hommes, ils ont cette suprématie d'être mieux payés, d'avoir plus de sponsors et d'avoir plus d'opportunités. Et les événements que je vais créer, ce sera autant d'hommes que de femmes sur les départs.
Bah, trop cool.
Du coup, forcément, quand tu laisses des espaces vides, ils se remplissent. Ouais. Tu vois, quand tu mets imagine, tu commences petit, tu fais 20 hommes, 20 femmes, et les 20 femmes, tu les trouves. Même si elles sortent de n'importe où, tu vois. Là, récemment, j'ai créé une page qui s'appelle Women Foiling sur Insta.
Okay. C'est toi qui l'as créé ?
C'est moi qui l'ai créé, Women Foiling, il y a une semaine.
Ouais.
Et du coup, je me suis abonnée à tous les comptes de meufs, plein de meufs, en fait, que je suivais pas parce que mon Insta, tu vois, j'ai mes potes et tout. Mais j'ai découvert des nanas. Elles ont 60 ans, pareil comme tu disais. À 60 ans, elles envoient, mais grave. Et du coup, je repartage ça et tout. Et tu te dis, mais c'est trop cool, quoi. Et ces femmes-là, en fait, elles n'ont pas l'intérêt d'aller faire des reproductions de courses qu'on fait dans le kite en wing. Tu vois, c'est des courses de slalom, de freestyle qu'on a fait, refait, et ça n'a rien d'excitant, on va dire, tu vois. Et sur les formats plus downwind, en océan, tu vois, glissant avec la houle et tout, ça, je pense que tu peux toucher des gens. Enfin, tu peux plus diversifier, quoi, tu vois, et toucher une population mixte beaucoup plus facilement.
Ouais. Mais écoute, super initiative, tu vois. Et c'était, tu vois, c'était peut-être un. Je trouve que c'est une des beautés des réseaux sociaux, tu vois, c'est que, tu vois, dans ton cas, dans l'histoire que tu racontes, il y a clairement un pouvoir de décision qui est centralisé sur une personne qui a décidé que ça serait comme ça et que du coup, en fait, c'est le grain de sable dans tout l'engrenage et ça bloque tout. Et la beauté des réseaux sociaux, c'est que bah aujourd'hui, tu vois, n'importe quelle nana, tu vois, qui fait n'importe quel sport, en fait, elle peut commencer à créer son contenu et à elle devenir son propre média et à inspirer elle-même d'autres nanas, tu vois. Nana ou mec d'ailleurs, enfin tu vois, on s'en fout. Mais et du coup, de plus avoir, tu vois, ce blocage par soit des organisateurs, soit des fédérations, soit tu vois des marques, et que en fait ça donne de la visibilité, tu vois, d'une autre manière. Et ça je trouve ça, tu vois, on reproche beaucoup de choses aux réseaux sociaux, mais tu vois, c'est quand même une décentralisation, tu vois, du pouvoir des médias, qui est quand même hyper intéressante et qui permet, tu vois, des personnes de se développer, quoi, et des athlètes de se développer. Donc, ça.
Il y a aussi un énorme partage d'idées, tu vois. Il y a des médias comme les Simone, là, The Simone, elles sont, je les suis, je me marre trop. Voilà, il y a plein de pages comme ça qui te passe des messages d'une façon digitale, stylée, tu vois, facile à lire, des témoignages, des expériences qui peuvent venir de n'importe où, qui sont pas forcément sportives, mais que tu peux facilement associer à des injustices qui te concernent.
Ouais. Ouais, et puis qui te déformate aussi, tu vois. Et moi aussi en tant que com,
ouais, carrément,
je regarde beaucoup, parce qu'en fait, quand tu commences à t'intéresser à ce sujet-là, tu vois, de l'égalité des genres, de la construction du patriarcat, de tout ça, en fait, tu te rends compte que c'est tellement ancré, tu vois. Et c'est d'ailleurs, tu vois, j'ai lu aussi, moi, des bouquins masculinistes. Et des fois, en fait, il y a une réflexion à se poser, c'est OK, c'est quoi la part de génétique et la part de construction sociétale, tu vois? Parce que, et c'est ça, c'est tous les arguments, enfin, tous les courants masculinistes, ils se basent là-dessus, tu vois, sur de la génétique.
Non, mais après, tu vois, c'est comme les personnes de couleur, quoi. Ouais. Tu vois, on va t'inventer des trucs, ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent toujours, mais c'est n'importe quoi, tu vois, bien tu sûr. Peux pas. C'est comme le racisme.
Ouais.
C'est l'homme blanc qui gouverne et qui veut être supérieur à tous, alors que on devrait savoir vivre ensemble et être bien, enfin, tu vois, et se respecter les uns les autres pour ce qu'on est.
Ouais, ouais.
Sans avoir besoin, tu vois, d'écraser, de.
Ouais, ouais, c'est clair. Je suis d'accord. Et tu vois, ce qui est hyper dur à faire, c'est en tant qu'homme blanc, justement, c'est de se déconstruire, parce que à la fois tu peux avoir justement, tu peux te sentir très concerné quand tu dis homme blanc. Bah moi, je le prends directement pour moi, tu vois. Et en même temps.
Pardon.
Non, mais je te fais.
Toi, t'es blanc et roux. En plus.
Moi, je suis l'archétype du viking. Moi, je suis le patriarche, tu vois, incarné. Mais j'aime bien le dire et je l'accepte, tu vois. Et je suis un peu favorisé. J'ai fait des études. J'ai effectivement un papa qui, des parents qui sont battus pour que moi je puisse faire des études, une maman qui a mis des freins à sa carrière pour sa vie de maman et qui a laissé mon père, tu vois, bosser et avoir ce bon rôle ou ce mauvais rôle, tu vois, parce que mon père, il en a beaucoup beaucoup souffert de
bosser comme un âne. Non, mais c'est clair, le pire, c'est que les hommes en souffrent autant que les femmes.
Bien sûr.
D'être loin de pas avoir des moments privilégiés avec leurs enfants ou ouais, d'être dans ce rôle, d'être dans ce rôle-là, ouais.
Non, mais du coup, tu vois, ce qui est dur, c'est, tu vois, aussi de se dire, OK, moi, j'ai pris du recul, je me dis, c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien. C'est pas mon voisin non plus qui est un peu plus macho, peut-être, que moi. En fait, c'est juste, ça fait des millions d'années qu'on a une société qui s'est construite. Et maintenant, chacun, à notre échelle, on peut faire juste cette petite réflexion. Et c'est de la faute de personne.
Ouais,
et
ça,
même
fait.
Le plus gros des machos, c'est même pas vraiment sa faute, tu vois. Si, c'est de sa faute de pas se poser de questions, tu vois. Mais, c'est pas de sa faute tout cet héritage, tu vois.
Mm-hmm.
Et il est un peu con, il se pose pas de questions et c'est pas grave. Mais en fait, moi, ce que je me dis, c'est que des mecs qui se posent des questions autour de moi, il y en a de plus en plus. des nanas qui se posent des bonnes questions autour de moi, il y en a encore plus, tu vois, et que bah, du coup tout le monde va dans le bon sens, et que il arrivera un jour où on se posera tous ces questions-là et on sera tous alignés, tu vois. Donc ça prend taquet de temps, ça prend ça, c'est, on, il y a beaucoup de choses qui sont pressantes, on a envie de tout améliorer sur tous les trucs, ce qui est pas facile, ce qui est hyper frustrant pour des femmes qui sont engagées comme toi et qui ont envie que tout évolue.
Mais c'est vrai que c'est, d'être optimiste, en tout cas, c'est vrai que c'est vraiment sortir de sa zone de confort. C'est comme pour l'environnement, tu vois. À un moment donné, si tu veux prendre soin de la planète, et bah, il faut faire certains sacrifices pour toi, mais c'est pour le bien de tous, et c'est pour un avenir meilleur. C'est pas pour s'embêter qu'on fait ça. Et moi, pour pouvoir comparer la communauté du paddle avec la communauté du wingfoil ou même du windsurf, l'ambiance, le lien entre les hommes eux-mêmes dans une communauté qui est plus mixte, ouais, avec plus de respect envers les femmes, je trouve que du coup, tu supprimes un peu ce rapport de force, tu vois, parce que le rapport de force, il est contre les femmes, mais si tu veux dominer les femmes, tu vas aussi dominer tout le monde. C'est pas, tu vas dominer la nature et tu vas dominer
bien sûr,
tu vas le même organisateur du World Tour te répond quand on lui demande, mais pourquoi on boit dans des bouteilles en plastique à longueur de temps, tu penses pas, parce qu'on a des réunions, tu vois, on avait des réunions, tu penses pas qu'on pourrait avoir des citernes d'eau et remplir nos gourdes sur les events et ce serait cool et tout. Tu dis, mais toi, si tu veux être écologique, arrête ton sport. Moi, les bouteilles d'eau, c'est mon partenaire et je continuerai à mettre des bouteilles d'eau. Tu vois, donc c'est vraiment un truc où, comme tu dis, tu te sens agressé toi, parce que tu le prends pour toi, alors que c'est la faute à personne. Tu vois, si on est comme ça, c'est comme un mouvement, tu vois, une inertie qui est là et qu'il faut essayer de changer. Et du coup, il y a vraiment, je trouve, un côté bénéfique dans des communautés qui sont plus respectueuses envers les femmes, parce qu'il y a aussi plus de respect envers les hommes eux-mêmes. Tu vois, un homme qui respecte une femme, il va évidemment respecter aussi son pote qui est là. Et c'est vrai qu'en windsurf, tu vas sur un event de windsurf, ah bah c'est comme ça. Hein. Les gars entre eux, ouais, ils sont pas cool. Hein.
Ouais.
Enfin, ils sont durs, tu vois, ils sont un peu méchants entre eux, quoi, tu vois, ils se mettent des piques graves et tout, ils sont genre ils ont pas l'air épanouis, quoi, tu vois, enfin ouais, moi de mon point de vue, tu vois,
okay,
ou en tout cas moins épanouis que des rameurs en sup, où bah voilà, c'est tout le monde est pareil, c'est cool, tout le monde fait sa course, tout le monde fait son kiff, on se raconte ce qu'on a vécu sur la course et tout, et voilà, tu vois, même s'il y a toujours moins de femmes que d'hommes aujourd'hui encore, tu vois, c'est pas une question.
Ouais, bah c'est des sujets passionnants, en tout cas, tu vois, on pourra en parler, je pense qu'on va aller encore plus loin en privé, tu vois,
ouais.
de pousser un peu les débats à fond, mais c'est vrai, écoute, moi je te félicite parce que t'as entièrement raison de pas lâcher le gras sur le bout de gras, c'est pas très beau comme expression d'ailleurs, mais de pas lâcher le morceau sur un sport qui se crée, tu vois, en 2021 et qui est en train de se structurer, ou 2022 et qui c'est au tout début, et effectivement, il faut incarner dès le début des bonnes valeurs, et dès le début, il faut fixer des jalons, et tu vois, et moi, ça m'inspire beaucoup aussi, tu vois, de ce positionnement, tu vois, justement, qui crée, tu vois, et désolé, je refais un parallèle à moi, mais tu vois, sur Extraterrien, je me suis dit toujours, je veux que ça soit un podcast mixte à 50%. Exactement.
Ouais, c'est toi qui le crée, tu vois.
Et tu vois, et ma cinquième invitée, c'était Marie-Amélie Le Fur, tu vois, une athlète paralympique, tu vois. Et pareil, je voulais absolument d'avoir, tu vois, cette mixité.
Et ça, c'est bravo à toi, du coup.
Et de le faire. Et je pense que, tu vois, il faut que ça vienne dès le début.
Ouais.
Et tu vois, je parlais à des gens qui bossent dans des grands médias sportifs très connus que j'admire, mais qui m'énerve aussi un peu, et qui ils peuvent pas revenir en arrière, tu vois, et qui m'ont dit mais ouais, mais nous on fait 90% de contenu sur des hommes, mais il y a que ça qui marche.
Mais non, mais parce que c'est ton audience, c'est en fait, c'est ça, c'est tu crées ton audience, et moi je regarde pas par exemple ce contenu là parce que c'est trop, en fait, c'est genre un excès de contenu sur des gars. Moi, tu me mets du foot féminin, un peu de foot masculin, du tennis, tu vois, il y a toujours les deux, forcément, ils vont pas faire que... Enfin,
bien sûr, ouais.
J'imagine. Mais plein de sports diversifiés, mais aussi diversifiés dans les genres. Et du coup, pourquoi ça marche pas? C'est parce que l'audience est vraiment habituée à ça et ouais. Intéressée que par ça.
Bien sûr.
Du coup, quand tu amènes un autre contenu, tu touches d'autres personnes. Ouais. Des femmes qui pourraient regarder du coup des événements sportifs.
Ouais,
tu vois
tout à fait. Ouais,
et exactement. Pour faire ça, il faut sortir de sa zone de confiance, de confort et de dire peut-être que pendant un temps, on va un peu galérer, tu vois.
Ouais.
Mais pour faire le pas, il faut, tu vois, faire l'effort.
Ouais. Ouais, est-ce que tu. Cet investissement que tu mets, qu'il soit financier, humain, moral, je pense qu'il payera toujours, tu vois, en termes de valeur, de marque, d'humanité, et que ça reviendra toujours
en
karma et en retour, tu vois. Et, ouais. Et moi, je serais hyper content, tu vois, tout à l'heure, on parlait de produits cosmétiques. Alors, je suis un peu vénère contre la cosmétique parce que je sais de source sûre que, tu vois, un produit qui est fait pour les hommes, il va coûter moins cher qu'un produit qui est fait pour les femmes, alors que c'est exactement la même formule, le même truc. Donc ça me gave un peu, je l'avoue. Mais si demain, j'ai une marque de cosmétiques féminin ou mixte qui vient me voir pour faire, tu vois, pour bosser avec moi, bah, je serais content, en fait. Tu vois, je me dis, ah, mais là, j'aurais réussi mon pari, en fait, tu vois. Et ça arrivera pas à beaucoup d'autres médias sportifs.
Ouais, ouais,
pas
ouais.
Pas tout de suite. Bon, donc,
faut que ça évolue. C'est, tu vois, c'est en fait, quand tu fais les choses toi, par exemple, tu décides de faire des interviews autant pour des femmes que des hommes, aussi t'intéresser au handicap et vraiment de toucher tout le monde. En fait, tu es toi-même une source d'inspiration pour, par exemple, cette marque cosmétique qui va plus enfler les femmes que les hommes et dire, mais du coup, comment ça se passe? Enfin, regarde, moi, ce que je fais, c'est ça, c'est cool et tout. Et pourquoi tu fais ça, tu vois? Peut-être qu'il y a différentes façons d'inspirer les autres en toi faisant des choses, tu vois?
Ouais.
Et parfois, c'est des petites choses qui ont une grande influence.
Ouais, bien sûr, ouais, exactement. Puis par si exemple, on n'essaye pas, on ne saura jamais, quoi.
Ouais, c'est ça. Par exemple, nous, en Wing, il y a Flora Arsner.
Okay.
Flora Arsner, donc, qui a créé la Roca Cup et qui est partie de zéro et qui s'est dit, moi, je veux faire un event comme je l'imagine, comme j'aimerais qu'il soit, et écologique, égalitaire. Avec du fun aussi, beaucoup, voilà, des épreuves où on se fait plaisir. Et du coup, à la base, c'était rien. Tu vois, c'était juste un petit événement organisé par une meuf, hein, qui commence le wing, enfin, qui commence parce que le sport naît, donc tu commences au tout début, forcément. Ouais.
Vous commencez tous débutants.
On est tous débutants, c'est ça, on est pas pro du tout. Mais, et en fait, ça a fait un carton. Parce que les valeurs et cet événement a eu une influence énorme sur le sport, sur les autres events. Et peut-être que c'est pour ça aussi que le World Tour s'est dit, on peut pas ne pas être égalitaire quand d'autres événements le sont.
Ouais.
Parce que du coup, qu'est-ce qu'on, enfin, on passe pour quoi, tu vois?
Il y a eu
quand même plusieurs events qui ont fait le choix de faire les primes égales pour voilà. Homme-femme. Et en fait, quand toi tu le fais, les autres suivent parfois, ouais. Même si t'es tout petit. Mmh. Donc, ça c'est cool.
Non, ouais. Mais c'est clair. Franchement, il y a plein de choses à faire. Et puis, tu vois, ça ouvre plein de trucs. Tu vois, hier matin, je parlais de foot féminin et de rugby féminin. Et tu vois, ça a ramené les familles dans les stades. Tu vois, quand tu vas dans les stades de foot, tu vois, il y a pas un seul gamin. Enfin, tu vois, moi, je ramènerais pas mon enfant là-dedans, tu vois. Et c'est des hommes.
Tu rentres dedans,
t'es un homme normal, bien, un homme ou une femme d'ailleurs. Je sais pas, mais tu t'es à peu près câblé, tu ressors, t'es complètement hystérique, complètement
un animal, quoi.
T'es un animal. Bon, tu vois, là, ouais, tu vas voir, c'est en famille, c'est un autre événement, c'est une autre expérience. C'est cool. Et tu vois, ça fait venir des nouveaux publics. Enfin, tu vois, c'est trop bien. Donc, il faut essayer. Il y a plein de trucs à faire. Et, et le monde va dans le bon sens. Voilà.
Ouais.
On espère. C'est clair. On espère. La toute dernière question que je pose, bah justement, tu vois, c'est très lié. Je demande une invitée et un invité que tu me recommandes d'interviewer. Ça peut être soit des athlètes parce qu'ils te marquent justement sur les sports de glisse et de vent et que t'aimes beaucoup, soit pour parler aussi, on pourrait parler de effectivement d'égalité des genres, tu vois, ça peut être un peu tes coups de cœur du moment. À qui est-ce que tu tendrais le micro pour échanger? Sachant qu'on a cité beaucoup de monde. Hein.
Ouais. Ben moi, je tendrais le micro à un sportif de haut niveau, de très haut niveau,
okay,
qui est revenu de très loin. après un accident, il a pris une dépanneuse de face sur l'autoroute. Je vais pas tout spoiler, mais si jamais tu l'invites, il était quasiment plus là. En fait, il était. Enfin, les pompiers, quand ils sont arrivés, ils ont dit :« Bah, on va d'abord s'occuper de l'autre parce que lui, certainement, qu'il survivra pas. » Et donc, c'est Fred Bonnef. C'est mon meilleur ami. C'est mon mentor, même que j'ai connu au tout début. Voilà, quand j'ai commencé. C'est quelqu'un qui est pas forcément sur le devant de la scène parce que bah voilà, c'est un rider, il a touché à tout, windsurf, stand-up, foil aujourd'hui. Okay. Et voilà, donc les médecins lui avaient dit que il remarcherait pas. Et aujourd'hui, il fait du foil.
OK.
C'est en fait il a fait halluciner beaucoup de personnes dans le médical, quoi, qui ont dit mais ça c'est impossible normalement, enfin c'est surhumain. Et du coup, ouais, Fred, c'est une grande source d'inspiration pour moi, pour qui il est, pour ce qu'il a fait, pour son mental, pour il a une très belle façon de parler aussi. Il partage très bien ce qu'il vit et ce qu'il pense. Et c'est quelqu'un que j'aimerais bien écouter, ouais, sur Extraterrien.
Trop
parce
cool.
Que c'en est un.
J'imagine, ouais. Trop cool. Trop cool. Et une femme, tu me recommanderais qui? Pour être égalitaire à 100%?
Une femme française.
Francophone. Si tu connais.
Ouais, bah écoute, là je cherche. Dans le sport, hein, tu vois, il n'y en a pas assez dans le sport. Ben Mélanie Hennick.
Ça ouais. Marche. Ça roule.
Deuxième invite.
Maintenant,
ouais,
c'est bon, j'ai
Mélanie Hennick qui a une très belle histoire aussi.
Ok, bon bah trop bien. On se dit comment est-ce qu'on fait pour les contacter, mais ça sera avec grand plaisir pour que je puisse leur parler. Merci beaucoup Olivia.
Merci à toi.
Je me suis régalé de bout en bout, tu vois, sur toute l'expérience.
Bah pareil.
Je dis souvent que le podcast c'est pas juste une interview d'une heure, que c'est un peu plus que ça, tu vois, c'est un peu une petite histoire. Et merci pour ce moment hors du temps, c'était très très cool.
Merci à toi.
Salut.
C'est cool, ouais. Ciao.
Ciao ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.